RFI 7h30 à Bamako et en temps universel, 8h30 à Paris et Niamey. Et tout de suite, le journal d'Edouard Dupénoit.
Avec le Mali à la une de cette édition africaine, écran noir pour Djoliba TV, la chaîne n'a plus le droit d'émettre. Décision de la HAC, vivement déplorée par les organes de presse. Djoliba fait les frais des propos tenus par Issa Kaounjim, des propos qui avaient outré les dirigeants du Burkina voisin. Le Burkina Faso et cette manifestation qui dégénère à Solenzo dans la boucle du Mouhoun. Le chef du canton, lynché à mort, les habitants manifestaient après la mort de 15 VDP civils la semaine dernière. Comment profiter au mieux des richesses du sous-sol? Comment surveiller que les multinationales ne fassent pas sortir en douce de l'argent qui devrait tomber dans les caisses des États? Nous sommes à Dakar pour la publication d'un rapport dédié à ce sujet épineux. Plus de 500 afro-descendants naturalisés ghanéens, on assiste aussi dans quelques minutes à une cérémonie émouvante pour les nouveaux détenteurs de la nationalité ghanéenne, des descendants de celles et ceux qui avaient été vendus comme esclaves lors de la traite des Noirs. La chaîne privée Djoliba TV doit cesser d'émettre à compter d'aujourd'hui. Décision de la HAC, la haute autorité malienne de la communication, dans une affaire qui fait bondir déjà les défenseurs de la liberté de la presse. Il y a 10 jours, une figure bien connue au Mali, Issa Kaounjim, avait tenu, lors d'une émission sur Djoliba TV, des propos qui avaient fortement déplu à la transition du Burkina Faso voisin. Il avait mis en doute la nouvelle supposée tentative de coup d'État que Ouagadougou disait avoir déjouée. Lui-même est déjà sous mandat de dépôt et David Baché, c'est désormais l'ensemble de la chaîne qui est condamné.
Ils rendront compte un jour devant le peuple, prédit avec colère un dirigeant de Djoliba TV. C'est une décision politique. Ils veulent uniformiser la pensée dans l'AES, poursuit cette source. Nous préférons perdre notre licence que d'être une caisse de résonance. Tous les médias maliens sont menacés. Une position partagée par la Maison de la Presse, qui rassemble les organisations de journalistes du Mali et dont une délégation a rencontré hier le collège de la Haute Autorité de la Communication du Mali pour lui demander de revenir sur cette décision jugée excessive. Une réponse rapide aurait été promise, mais c'est bien ce mardi que le signal de Djoliba TV est censé être coupé. Le président de la HAC, Gaoussou Koulibaly, n'a quant à lui pas souhaité répondre à RFI, interdite au Mali depuis plus de 2 ans et demi. Nous ne nous tairons pas. Préparez-vous au réveil du peuple. Vive la liberté, vive Djoliba, ont réagi ouvertement plusieurs journalistes maliens. La Maison de la Presse prévoit de demander à tous les médias nationaux de rediffuser l'émission incriminée, en signe de protestation. La quasi-totalité des partis politiques maliens rassemblés au sein de la déclaration du 31 mars demande aux autorités de reconsidérer une mesure liberticide qui ternit l'image du pays.
J'ajoute qu'Issa Kaounjim doit comparaître quant à lui à la mi-février devant la justice. Il sera jugé pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. L'actualité au Burkina Faso et cette manifestation qui a dégénéré hier dans la région de la boucle du Mouhoun, dans le nord-ouest du pays. Les habitants de la localité de Solenzo étaient descendus manifester contre l'insécurité après la mort de plusieurs supplétifs civils de l'armée la semaine dernière. Les autorités locales avaient demandé le report de cette manifestation qui a finalement dégénéré. Le chef du canton a été tué. Précision Alexis Guilleux.
C'est l'attaque contre une position des volontaires pour la défense de la patrie jeudi dernier qui a ravivé la colère des populations. Elles estiment avoir alerté le bataillon d'intervention rapide plusieurs heures avant l'assaut, sans aucune réaction des soldats. 15 VDP ont alors été tués. Lors d'une rencontre dimanche, les autorités administratives, soutenues par le chef du canton, avaient demandé de reporter la manifestation prévue ce lundi, sans succès. Excédées, les populations de Solenzo sont sorties dans les rues. Selon des témoins, le chef du canton a été pris pour cible, son domicile saccagé, ses épouses battues. Lui-même a été lynché, puis tué, comme le montrent des images diffusées par les réseaux sociaux. Un fait très rare au Burkina Faso, où les chefs traditionnels participent à la régulation des tensions sociales. Les forces de défense et de sécurité ont recouru à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Un couvre-feu a été instauré hier après-midi.
Alexis Guilleux, des systèmes judiciaires à la peine, du recueil de témoignages jusqu'à la condamnation. Une ONG américaine se fend d'un rapport critique sur la gestion des violences subies par les femmes sur le continent africain, au lendemain de la journée internationale pour la fin de ces violences fondées sur le genre, justement. Equality Now, c'est le nom de cette ONG, publie donc un rapport dans lequel elle a ausculté les systèmes judiciaires de 45 pays du continent pour en conclure que les femmes victimes de violences, Paul Lorgerie, n'ont que très peu de chances d'obtenir justice.
Selon l'ONU Femmes, près de 33% des femmes africaines âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles de la part d'un partenaire intime. Une donnée bien en deçà de la réalité, insinue Equality Now. Les contraintes culturelles doublées de l'ostracisme auquel elles s'exposent, les décourageant souvent pour porter plainte devant les juridictions compétentes lorsqu'elles sont compétentes. Le rapport relève que toutes les formes de violences sexuelles ne sont pas reconnues par les codes pénaux des différents pays et que les peines prononcées ne sont parfois pas proportionnelles au mal engendré. L'ONG prend exemple sur la Guinée équatoriale qui, dans son code criminel, indique, je cite, que le viol de toute femme devrait être puni d'un emprisonnement mineur. Autre question sensible, celle du mariage. Lorsque l'on sait que les violences sont en majorité commises dans le cadre familial, il arrive que les peines soient plus légères lorsqu'il s'agit d'un mari violent. Et quand bien même ces cas seraient portés devant un tribunal, certains codes criminels exigent de la victime un certificat médical afin de porter plainte dans des régions où l'accès aux soins est parfois difficile.
Il est 7h36. En temps universel, même heure à Dakar, la direction des douanes au Sénégal qui annonce la saisie d'une cargaison de cocaïne dans les environs de Koungheul. 235 kilos de drogue retrouvés dissimulés dans la carrosserie d'un véhicule. Une saisie effectuée avant-hier. Il y en aurait pour près de 19 milliards de francs CFA selon le communiqué des douanes, soit plus de 29 millions d'euros. L'actualité sénégalaise, c'est aussi la publication à Dakar d'un rapport sur les revenus tirés des ressources naturelles. Rapport rédigé par un groupe de réflexion américain, le Natural Resource Governance Institute, qui épingle les pratiques auxquelles se livrent bien souvent les sociétés qui exploitent les richesses du sous-sol pour éviter de reverser trop d'argent au pays où elles opèrent. Le Sénégal est particulièrement concerné par ce potentiel manque à gagner, puisque les industries extractives pourraient représenter 9% du produit intérieur brut sénégalais d'ici 6 ans, Gwendal Lavina.
Il est question d'évitement fiscal et de fraude fiscale, mais le rapport s'arrête surtout sur le système de fausse facturation commerciale qui permet aux entreprises de transférer des richesses hors du pays sans être imposées. Ainsi, chaque année au Sénégal, 153 millions de dollars, soit 3% des recettes fiscales, n'arriveraient jamais dans les caisses de l'État, selon le rapport. William Davis, son auteur.
C'est là où on a les preuves les plus concrètes de perte de recettes et c'est là où il existe des solutions assez claires. Par exemple, un meilleur partage d'informations entre les services douaniers dans de différents pays pour pouvoir comparer les factures qui sont déclarées pour une même cargaison à l'exportation et à l'importation.
Parmi les autres recommandations, augmenter le nombre de fonctionnaires chargés d'inspecter les entreprises et élargir les audits aux sous-traitants par lesquels se produisent bien souvent ces détournements. Des éléments déjà identifiés par les autorités, rappelle Aminata Sekndao, directrice de la réglementation au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines.
Le rapport vient juste nous renforcer dans la conviction du gouvernement qu'il nous faut maîtriser ces pratiques-là pour pouvoir tirer le maximum dans le cadre de l'exploitation, que ce soit minière, pétrolière ou gazière. Donc on est déjà dans cette dynamique.
L'enjeu devient d'autant plus grand pour l'État que le pays a commencé à produire ses premiers barils d'hydrocarbures et compte renégocier les contrats qui le lient à des entreprises étrangères. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Un accueil présidentiel pour plus de 500 nouveaux citoyens du Ghana. Le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, a lui-même présidé une cérémonie au cours de laquelle ces centaines d'afro-descendants ont reçu formellement leur nationalité ghanéenne. Cela fait plusieurs années en fait que Accra, comme le Bénin d'ailleurs, ont lancé cette politique mémorielle, celle qui vise à faciliter l'installation dans le pays de celles et ceux dont les ancêtres avaient été déportés comme esclaves pendant la traite des Noirs. Victor Cariou a pu recueillir l'émotion de ces New Ghanéens.
Un retour à la maison. Voici les mots qui sortaient de toutes les bouches ce matin au bureau du Diaspora Africa Forum, une entreprise d'aide à la repatriation à Accra. Leur toute nouvelle carte d'identité ghanéenne dans les mains, Sidra Smith et Hike Howard, afro-américains d'une cinquantaine d'années, ne peuvent s'arrêter de sourire.
Hier, c'était le moment le plus magique que j'ai jamais vécu.
J'ai attendu ça depuis toujours, et aujourd'hui, on sent qu'on a enfin le droit de revenir à la mère patrie. C'est dans notre ADN, ça fait partie de nous.
Selon le Diaspora Africa Forum, près de la moitié de ces 524 nouveaux Ghanéens n'ont d'ailleurs jamais vécu dans leur nouveau pays. Judah Hatcher, habitant du Maryland, prévoit de s'y installer l'année prochaine.
Nous espérons d'abord pouvoir trouver un terrain pour y bâtir notre maison. Ensuite, nous chercherons une organisation qui aurait besoin de notre aide pour construire une école, ou nous le ferons nous-mêmes.
Sa naturalisation a été facilitée par une prérogative présidentielle qui l'a dispensé de résider plusieurs années sur le sol ghanéen avant de pouvoir prétendre à la nationalité La même dérogation dont a bénéficié 6 mois plus tôt le chanteur Stevie Wonder. Victor Cariou, Accra.
Les autorités de transition du Niger interdisent l'exportation de ciment gris. Elles n'en donnent pas de raison officielle. On rappelle que cette mesure survient un mois après l'annonce de la très forte baisse des prix de ce ciment, moins 35%. L'actualité au Niger, ce sont aussi les tout premiers travaux qui commencent pour le nouveau comité chargé d'écrire l'histoire générale du pays. Début novembre, le président de la transition, le général Tchiani, avait signé un décret pour créer un groupe d'universitaires, d'historiens, d'archéologues, charge à eux de rédiger une somme générale, une histoire complète du Niger. Non pas qu'il n'existe rien sur le sujet, au contraire même, le premier travail de ces spécialistes, c'est justement de faire l'inventaire de ce qui existe déjà pour voir ensuite comment le compléter et quel éclairage nouveau ils peuvent lui donner. Magali Lagrange, le comité rejette déjà toute suspicion d'instrumentalisation politique.
Le Togo a écrit son histoire générale, le Burkina Faso et le Sénégal aussi, alors pourquoi pas nous ? Interroge le professeur Mamoudou Djibo, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Abdou Moumouni de Niamey et rapporteur général du comité nouvellement créé. Écrire l'histoire générale du Niger, de la préhistoire à nos jours, ce projet date de plusieurs années, explique l'ancien ministre de l'enseignement supérieur de Mohamed Bazoum. Il existe déjà au Niger des textes de référence écrits par de grands historiens nigériens comme André Salifou ou Djibo Amani, mais aucun n'a embrassé l'histoire dans sa globalité, tempère Mamoudou Djibo, et il n'existe pas, dit-il, d'ouvrage sur l'histoire du Niger dans les écoles. Historiens et archéologues ont donc été conviés à une première réunion samedi dernier. Un comité doit faire l'inventaire de tout ce qui existe. Les spécialistes seront appelés à participer pour compléter et explorer des thématiques comme l'histoire des mouvements sociaux, par exemple. Des inquiétudes s'exprime toutefois, notamment concernant la période coloniale. Mamoudou Djibo s'en défend. Nous ne voulons rien effacer. Il ne s'agit pas de réviser l'histoire, mais de faire un travail scientifique pour que les Nigériens s'approprient leur passé.
À Niamey, Andréane Mellari, il est 8h42.
Merci Edouard.